Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur RFI, votre rendez-vous quotidien avec la planète football. Et aujourd'hui, nous évoquerons la vieille dame, victime d'un braquage à l'anglaise. Hier soir, la Juventus de Cristiano Ronaldo a enregistré sa première défaite à Turin, battue par Manchester United, battue dans les dernières secondes par des joueurs mancuniens peu convaincants qui se sont fait voler la vedette par José Mourinho, roi de la provoque, du coaching aussi sans doute hier soir. La Juve tombe de haut. Les buteurs de sortie en Ligue des Champions, notamment Karim Benzema, auteur d'un doublé et de son 201e but merengue, aux portes de la légende du club madrilène. Et puis aussi Robert Lewandowski, auteur d'un doublé qui rentre dans le top 10 des meilleurs buteurs de cette Ligue des Champions. Lyon, l'équipe reine du gâchis, celle qui avait épaté en allant gagner à City, accumule les matchs nuls en craquant dans les derniers instants. En Ligue des Champions comme en championnat, de quel mal souffre donc l'OL qui a su aussi être séduisant un peu devant son public hier soir? Enfin, chaud et peut-être trop chaud s'annonce le match retour de la finale de la Ligue des Champions d'Afrique. Après un match aller à Alexandrie très disputé entre Al Ahly et l'Espérance de Tunis et après les sanctions de la CAF, l'arbitre éthiopien aura une énorme pression sur ses épaules, même si la vidéo théoriquement l'assiste. Et pour évoquer ces sujets dans Radio Foot, Franck Simon de France Football, bonjour.
Bonjour Annie et bonjour à tous.
Vous avez un beau maillot avec beaucoup d'étoiles dessus.
Oui, beaucoup d'étoiles, beaucoup d'or. C'est le maillot de le polo du Nzalang national de Guinée équatoriale, très apprécié d'Olivier, je crois.
Voilà, assez neutre donc.
Très neutre, je suis très neutre.
C'est ni Al Ahly ni l'Espérance. Nabil Djellit, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous. Le Nzalang national est aussi très apprécié des arbitres.
En fait, la CAF aussi,
j'essaie
qu'il sanctionne souvent.
D'être dans la tonalité, Nabil. C'est l'émission.
Bruno Constant, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous. Moi, je ne porte pas de maillot, je suis neutre.
Mais vous avez la même passion, non?
Oui, exactement. Voilà,
exactement.
Alors, tout va bien ici. Et puis Olivier Pron aussi, bonjour Olivier.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Vous avez quitté le Vésuve éruptif.
Ah, éruptif. Ça, c'est clair. J'ai quitté cette bonne ville de Naples et ses délicieuses pizzas et son stade San Paolo d'un autre âge. Plus vieux encore que Franck Simon.
Pas sûr.
Aussi, sûrement.
Aussi.
Radio Foot, c'est parti.
C'est pour Wanmata.
Oh, Olivier.
Oh oui, non, le tapis est là. Signé Wanmata.
This is a hold up and nobody moves.
C'est pas un hold up. Baissez les bras.
Et le coup franc d'Ashley Young.
C'est la nuit. C'est fou. C'est complètement dingue.
C'est dingue.
C'est le coup de l'histoire. United fait tomber la Juventus. Alors ça.
Un petit montage de Laurent Salerno autour des commentaires de nos confrères de RMC Sport. Et la Juve a donc perdu son premier match de la saison et encaissé ses deux premiers buts en Ligue des Champions. Alors que les Bianconeri s'étaient imposés à Old Trafford il y a quelques semaines. Les joueurs de la Juve battus hier soir donc à Turin, dans les dernières minutes de la partie, vous l'avez entendu. Et bien qu'ils aient mené au score avec un but extraordinaire de Cristiano Ronaldo. En fin de partie, en tout cas, le défenseur Giorgio Chiellini avait du mal à admettre la défaite.
Pour tout vous dire, je ne me souviens pas d'une telle remontée contre nous dans notre stade. C'était vraiment un scénario incroyable avec ces deux buts dans les trois dernières minutes. C'est d'autant plus rageant que l'on jouait bien dans cette rencontre. On construisait bien notre jeu. On était bien organisés et on était vraiment les patrons sur le terrain, avec et sans le ballon. Mais ce sont les petits détails ce soir qui nous font perdre, ce qui est logique dans les grands matchs.
Est-ce une défaite qui vous paraît injuste, Bruno Constant, cette défaite de la Juve et des Bianconeri? On rappelle, le premier but de égalisateur vient à la 86e minute,
ouais.
Et à la 90e, on a le but de la victoire.
Elle est injuste sur la physionomie du match et sur l'ensemble de la rencontre, parce que le Real a quand même largement dominé Manchester United.
La Juve, pardon. Le Real.
Non, Cristiano a changé. C'est toujours un peu de blanc, mais.
Le Manchester United n'avait pas montré grand chose pendant 85 minutes. Il marque sur deux coups de pied arrêtés, un coup franc de Mata et puis un énième coup franc excentré et contré, dévié deux fois, deux, trois fois par la défense turinoise. Après, un match, c'est 90 minutes. Mm-hmm. Donc on peut pas en vouloir à Manchester United de jouer ses dernières armes, de tout jeter dans la bataille pour essayer de remporter ce match. Mais honnêtement, c'est un hold-up parfait de la part de United, et ça revient un petit peu aux grandes heures de José Mourinho, qui était capable de faire ça, d'attendre son adversaire pendant une heure, voire plus d'une heure, et puis avec deux banderies comme ça en fin de match, de remporter le match. Après, il y a eu des circonstances en fin de match.
On y reviendra. On y reviendra sur les circonstances particulières. Nabil, injuste cette défaite pour la Juve.
Dans l'histoire.
La Juve un peu toute puissante qui figure parmi les favoris de cette compétition.
Une bonne piqûre de rappel, mais combien de fois la Juve dans son histoire a peut-être gagné de manière injuste.
Après, de cette manière,
voilà,
vous voulez
dire. Après, la physionomie du match est intéressante.
Oui, par rapport au contenu.
Oui, voilà, par rapport au contenu. Bon, effectivement, il y avait une équipe qui semblait meilleure et plus forte que l'autre, c'est la Juve, comme à l'aller. Je l'ai trouvé même meilleur que lors du match aller au niveau du contenu. Ça a été sanctionné par un but encore irréel par monsieur Cristiano Ronaldo, alias monsieur Ligue des Champions. Il a pas tort quand il dit qu'il faut renommer la Ligue des Champions de son nom, parce que il l'incarne comme aucun autre joueur dans l'histoire, ou peut-être Messi dans son sillage. Mais on sent qu'il y a quand même une relation particulière avec cette compétition. À saluer, je trouve quand même, et il faut le dire, même si on le taille régulièrement, et même si encore une fois il a fait le show en fin de match, Mourinho, excellent coaching.
On va y venir à son coaching, à sa prestation à lui particulièrement.
Et on va dire que c'est quand même une victoire de prestige importante au moment où l'image
l'expliquera
mieux que moi, et l'image de Manchester un petit peu contestée, brouillée. Là vous battez quand même une équipe qui est aujourd'hui parmi clairement les deux ou trois favoris au titre.
Franck, alors on sait bien, le mot injuste en football finalement ça n'existe pas,
de le rappeler, parce que j'allais justement revenir sur les propos de Nabil qui disait que la Juve a souvent, enfin par le passé, remporté des victoires injustes ou au goût injuste. Pour moi, ça veut pas dire grand chose.
Moi, de ce que j'ai vu, tout à fait injuste, il disait de la même manière.
Donc, ouais, non, il a dit, il a utilisé le mot injuste.
Bon.
On peut faire un petit rewind
sur le plateau.
Non, bien sûr.
Mais
moi,
je trouve
que vous
êtes un peu injuste, là, franchement.
C'est moi qui l'ai dit, Franck.
Faut rembobiner. Que visiblement, il a même Alzheimer. Hein. J'invite les auditeurs à réagir sur la page Facebook. Voilà. Ou alors, c'est que j'entendais brucher comme Jeanne d'Arc, Nabil Djellit.
Non, mais ça, c'est sûr que moi, je l'avais utilisé aussi, Franck.
Alors, tous
mais,
les deux.
Oui, alors, est-ce qu'elle a été volée, finalement, cette
dame? Soyez juste, Franck.
Je vais juste vous répondre. Pour moi, un nul n'aurait pas été injuste. Non, parce qu'ils ont, ils sont quand même créé des occasions. Ils font pas le match de l'année, Manchester United, mais.
La Juve touche comme deux fois les poteaux, enfin deux fois les
poteaux.
Il y a eu un manque de réussite en plus de la part de la Juve.
Il le joue 10 fois, il le gagne, une fois ou deux.
Non, mais sur le match d'hier, les poteaux, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Pour moi, ça n'aurait pas été choquant si ça se terminait sur un nul. Bon, il y a eu ce coup franc, c'est la faute à pas de chance, mais Bruno le disait en même temps, ils vont la chercher. Nabil l'a dit aussi à un moment, ils vont chercher ce truc là, ils ont les ressources aussi. Ça fait partie de l'ADN, et puis ça fait partie du football britannique, anglais, tout simplement.
On se demandait s'il y avait un mou time désormais
il y avait une stat intéressante quand même, c'est la première fois que Manchester United marquait deux buts après la 85e minute depuis la fameuse finale de face à Munich
avec Sheringham,
il y a 20 ans. Vous voulez dire il y a 20 ans.
Il faudrait aussi trouver la stat. Moi je l'ai pas vu passer aujourd'hui, la dernière défaite de la Juve à domicile en Ligue des Champions, voire même
j'ai
à domicile
2003 je crois.
Kevin s'en souvenait pas. Matchs.
Ça n'arrive pas souvent et ça reste une performance à mettre au crédit de Manchester United. C'est à la fin de la foire qu'on rentre les bouses, on dit chez moi. Ça veut dire que ils ont pu être dominés, ils ont pu avoir deux poteaux s'ils veulent. À l'arrivée, il y a 2-1, ils ont marqué, ils ont le mérite de jouer jusqu'au bout.
C'est moins grave.
Les Allemands du côté de Lyon ont fait à peu près la même chose.
Après, très sincèrement, si on recontextualise un minimum, ils ont réussi le coup parfait. Ça reste un match de poule. Si ça avait été un match en quart de finale ou huitième de finale, ça aurait été beaucoup plus grave. Et rappelons quand même la saison dernière que Tottenham, déjà un club anglais, n'était pas venu s'imposer à la Juve, mais avait réussi deux partout et avait
bien tenu en échec
les Italiens.
Avant qu'on parle de Mourinho, de son coaching et tout, juste, on s'arrête quelques instants, peut-être, Franck, sur le but de Cristiano Ronaldo, si vous voulez nous le décrire, ce 122e but en Ligue des Champions.
121e.
Ah, c'est 121.
C'est ce que je vois inscrit sous mes yeux. Donc,
on n'a pas
voilà.
Le même stade, mais il marquera le 122e
but. Oui, de toute façon, c'est sûr.
Excusez-moi, 121e.
Mais c'est vrai, 121 ou 122, le deuxième est à 105, c'est Messi. Il y a quand même un gap énorme. Et le troisième sera sans doute bientôt Karim Benzema.
Il est un peu plus âgé, il y a quelques années d'écart entre les deux, quand même.
Oui.
C'est juste.
Ça en fait quand même 16 d'écart, il va falloir quand même aller les combler.
Ça fait deux à trois saisons européennes. Mais c'est vrai qu'il y a cette ouverture, en fait, ce ballon pour lui,
de Bonucci,
voilà, qui reprend, en fait, dans la course, sans contrôle.
Très difficile à réaliser.
C'est un geste que vous avez réussi, Nabil, je vous l'ai vu le réussir. Par le passé,
Non, mais c'est très difficile à réaliser parce qu'elle arrive de derrière. Et la reprendre de volée quand elle arrive de derrière, c'est extrêmement compliqué parce qu'il faut une coordination parfaite.
Voilà.
Il faut l'équilibre. Il faut jauger la trajectoire du ballon et il faut aussi positionner son corps parfaitement.
Et le plus incroyable dans tout ça, c'est à aucun moment Ronaldo ne regarde le but.
Exactement.
C'est un phénomène. Ça va très vite.
Et en plus,
il la place
vraiment au premier poteau. Mais alors, vraiment, elle était insaisissable pour le gardien.
C'est impossible. Ça va beaucoup trop vite. Mais le geste est exceptionnel. Bon, on en sait capable depuis tant d'années. Mais malgré tout, on est toujours sous le charme
admiratif.
Franchement,
du talent. En tout cas, c'était son premier but sous les couleurs turinoises en Ligue des Champions.
Il a bien fêté en Ligue des Champions depuis 453 minutes. Vous voyez, il en a marqué 121, mais ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas trouvé. 453 minutes, ça fait combien de matchs, David Jalit? Ça fait 9,45, presque 5 matchs.
Et vous avez aimé sa commémoration?
Vous voulez que je vous la fasse? Je vais pas montrer mon ventre, parce que
moi je sors du sport, j'ai fait un peu de culturisme.
Lui montrait des tablettes de chocolat.
La mousse au chocolat, frère.
Sa célébration.
Il y en a qui préfèrent la mousse à la tablette,
Sa célébration a pas beaucoup plu aux supporters de United, quand même. Parce qu'il a célébré son but face à un ancien club les supporters estiment que.
Il y en a marre de ça.
J'en ai parlé avec des joueurs professionnels, d'anciens joueurs professionnels, eux-mêmes, trouve ça absolument ridicule de ne pas célébrer un but parce qu'en réalité t'es envahi par une émotion, t'as juste envie d'être content.
Bien sûr.
Et en fait tu fais du cinéma en quelque sorte.
Et là le premier en plus de la saison en Ligue des Champions.
Non mais il faut arrêter avec ça quand tu marques.
C'est au-delà des 450 minutes et vous avez raison Annie, c'est surtout la première fois qu'il marque pour la Juve en Ligue des Champions. Il est quand même venu à la Juve pour aller au bout.
Ouais, mais au moins il est sincère. Non mais c'est ça qui est bien avec Ronaldo, on peut dire ce qu'on veut.
Non mais en plus Nabil,
il a aussi ses bons côtés.
On rappelle aussi que il le dit lui-même, que c'est une des raisons pour lesquelles il est venu là, c'est pour ce public.
Ouais, tout à fait.
Et ce public qu'il avait applaudi l'année dernière alors qu'il ne jouait même pas sous les couleurs de la Juve et quand il avait marqué sa fameuse bicyclette qui a elle aussi.
On l'a vu en larmes aussi en début de saison.
Donc, bien sûr, c'est
important pour lui.
Ce qui est important surtout de noter pour la Juve, c'est que c'est pas une défaite rédhibitoire, c'est surtout ça. Ils sont toujours en tête du groupe. Ils ont toujours largement leur destin entre leurs mains. Ce qui est important, c'est la victoire pour Manchester United qui en revanche permet à Manchester United de reprendre un peu d'avance sur Valence.
Ça change complètement.
Mais sur la Juve, effectivement,
depuis quelques semaines, on entendait dire que la Juve était l'un des grands favoris de la Ligue des Champions. Quand on regarde défensivement, certes, ils ont des grands noms, mais il y a d'énormes largesses. Déjà au match aller, United n'avait pas profité de ces espaces. Là, ils l'ont fait un peu plus, ça peut finir à 3.
Resserrer les boulons.
Moi, je trouve que c'est un peu comme le Barça la saison passée. On disait ils gagnent tout, ils sont plus solides défensivement, mais en fait, pas tant que ça.
Non, mais c'est vrai parce qu'en plus, c'est l'équipe qui est toujours invaincue en Serie A, donc qui domine déjà, qui a déjà creusé un peu l'écart.
Ils ont 6 points d'avance sur Naples et l'Inter.
Exactement. Et tout d'un coup, effectivement, c'est peut-être un rappel, parce qu'ils recrutent notamment Cristiano Ronaldo.
Mais ils ont pris Bonucci.
Faut pas qu'ils s'endorment.
Ils ont pris Bonucci.
Ils ont repris Bonucci derrière.
Et puis un garçon qui stationne, et on en parle parfois ici, et qui est sorti un peu dans les médias pour expliquer qu'il allait se poser des questions sur son avenir parce que son temps de jeu était limité. D'ailleurs, cette défaite, elle est dommageable dans le sens où elle va pas permettre du turnover sur les deux prochains matchs puisqu'il va falloir jouer le match contre Valence. Je pense notamment à l'international marocain Mehdi Benassia qui réclame du temps de jeu.
Ouais. Mais bon.
Et dont on parle du côté d'Arsenal.
Exactement.
Ce serait pas une mauvaise idée du tout.
Alors, venons-en à l'autre fait du match, parce qu'en dehors de ce beau but de Cristiano et de cette défaite, eh bien, c'est quand même coach Mourinho qui, d'abord, alors on peut en parler, effectue sans doute les bons changements, puisqu'il fait rentrer Juan Mata, qui marque effectivement ce très beau coup franc ensuite, et puis Rashford et Fellaini, et qui contribue au deuxième but, Bruno.
Ouais, alors moi le coaching gagnant, ça me fait toujours un peu sourire parce qu'en même temps les changements qu'il a à faire, non mais les changements qu'il va faire, on s'en doute en fait, parce que Mata, on savait qu'il allait rentrer pour essayer de garder un peu plus le ballon. Devant, il avait un attaquant sur le banc, il avait même dit avant le match, il a Rashford sur le banc, je le ferai rentrer. Donc Rashford est rentré et puis Fellaini, c'est son chouchou, il adore le faire rentrer notamment pour pousser en fin de match.
Mais les trois sont impliqués dans les deux buts.
Effectivement et voilà, non, c'est bien, c'était un petit coup de poker et effectivement, ils ont réussi à faire le dos rond. Après, je trouve pas que United ait fait un grand match. Ils ont fait une très belle entame de jeu et à un moment donné, quand même, ils ont reculé, ils ont défendu dans leurs 16 mètres, quoi. J'avais jamais vu ça. À part du temps de Chelsea face au Barça en 2012, ils avaient joué à 10 contre 11 au Camp Nou. J'ai jamais vu une équipe défendre aussi bas. Ils ne sortaient quasiment pas sur le porteur du ballon. Donc, certes, ils ont gagné, mais c'est pas totalement convaincant.
C'est
quand même.
Pas maîtrisé,
alors,
quoi.
Peut-être un super coaching, mais surtout un super provocateur. Mourinho a gâché la soirée de Manchester United. Écrit-on en Angleterre aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est dans le Sun qui évoque aussi un manque de classe de l'entraîneur. Bon, on en a souvent parlé ici. Un retour spécial en Italie, écrit le Times. Allusion évidemment au geste du Portugais qui a nargué le COP de Turin encore sous le choc de la défaite. Alors certains Bianconeri, on l'a vu à la fin du match, étaient furieux. Chiellini, Chesney, Dybala. La presse italienne parle d'une gifle à la Juve dans un double sens, d'un spécial flop aussi. Ouais. José Mourinho, évidemment, vous allez l'entendre, il y a toujours une bonne excuse.
Je suis venu faire mon travail. Et je me suis fait insulter pendant 90 minutes. Moi, je n'ai insulté personne. Même si à froid, je n'aurais pas refait mon geste. Mais ils m'ont insulté. Ils ont insulté ma famille et ma famille interista.
Rien que la famille interista.
Voilà, ils ont insulté tout le monde. Donc Mourinho se venge. On a l'habitude des réactions, ça peut encore peut-être faire rire, mais est-ce que c'est une provocation qui en plus vole la vedette à ses joueurs, Bruno?
Je pense, oui, déjà la première chose, c'est qu'il vole effectivement, parce qu'il le fait consciemment et sait très bien ce qui va se passer derrière, donc il vole consciemment un peu la vedette à ses joueurs, il ramène toujours un peu à lui. Après, il récolte ce qu'il a semé. Il faut se rappeler qu'au match aller, quand il s'en va le long de la ligne de touche,
quand ils ont perdu à domicile,
il fait les trois doigts face aux supporters italiens, le triplé avec l'Inter face à la Juve. Et à force de provoquer comme il le fait régulièrement et même constamment, forcément, il a des réactions comme ça. Moi, je trouve que c'est un entraîneur qui manque clairement de hauteur et de classe. Par rapport à beaucoup d'autres grands managers et pour citer son prédécesseur Alex Ferguson qui ne se serait pas permis de faire ça.
Même quoi,
il y a un respect à avoir, même s'il y a
un côté parvenu chez lui un peu, je sais pas, quelque chose comme ça. C'est vrai, ça manque de classe quoi. Quand on a le palmarès qu'il a, quand on est reconnu, qu'il l'a été en tout cas, et il est reconnu, il peut se passer de ce genre de geste. Moi, je suis clairement tout à fait d'accord. Moi, ça manque totalement de classe et de hauteur.
Nabil, souvenez-vous, et évidemment Bruno va s'en souvenir aussi, c'est récemment. Vous vous souvenez de sa colère contre l'adjoint de Sarri parce qu'il avait célébré un but d'égalisation de Chelsea.
Voilà. Il est de plus en plus irritable. Est-ce que ça correspond au traitement médiatique dont il fait l'objet? Vous avez narré
et qu'il provoque lui-même.
Également, est-ce que c'est lié aussi à ses résultats qui sont peut-être moins rayonnants?
Ça a été comme ça avant à Chelsea.
Moi, je vais être très sincère avec vous. J'entends tout ce qui est dit, classe.
Mais vous aimez.
Grand seigneur. Moi, je pense que quelque part, s'il n'y en a pas 4 ou 5 comme ça, je pense que s'il y en a un ou deux dans le paysage, ça met un peu de folklore, ça met un peu de couleur, et c'est une personnalité. Alors, j'entends effectivement que ça correspond pas aux valeurs sportives et tout ça, mais je pense que, je le disais hier, je pense que quand il arrêtera, il nous manquera quand même. Voilà, c'est juste un
sentiment. C'est ce que vous avez écrit sur Twitter.
Moi, je suis pas d'accord parce que c'est pas le rôle d'un entraîneur, d'un manager, c'est avant tout un éducateur, un entraîneur, et il doit montrer un exemple. Beaucoup plus que
des
les
éducateurs
encore.
De très
non, mais non, ouais, mais si, il doit montrer l'exemple. Et là, il s'adresse à des foules, c'était quand même des masses, c'est des milliers de supporters. Moi, je trouve que ça peut être dangereux.
Non, mais le football, dans le football, il y a toujours un aspect chambrage. Après, je sais qu'on l'a accepté, c'est accepté ou
ça,
pas.
Ça, on peut laisser aux joueurs.
Oui, mais lui, il l'accepte pas en Angleterre, et là,
on a eu l'histoire avec Fekir et le maillot.
Moi, je trouve que c'est
tout à fait d'accord avec Fekir.
Je trouve que ça soit de bonne guerre.
Ce qui est surprenant aussi, c'est que parfois, un joueur peut être puni d'avoir chambré le COP adverse, les supporters adverses.
Effectivement, mais enfin pour lui, visiblement, il évolue en toute impunité,
tout le
plus souvent. Moi, j'aime pas du tout ce comportement-là. Je préfère celui d'un au risque d'en choquer autour de la table, d'un Diego Simeone. Je préfère quelqu'un comme ça, qui gesticule, qui vit son truc. Et je trouve, est moins dans la provocation, alors qu'il est sud-américain et que lui aussi a du tempérament, plutôt qu'un Mourinho. Moi, Mourinho, franchement, non pas qu'il me laisse indifférent, mais c'est pas le genre de type pour lequel j'irais me battre sur un terrain. Quand je dis me battre, c'est-à-dire
Porter un maillot et défendre ses couleurs.
Pour lui, parce que il est pas, je le trouve pas inspirant. Il a pu l'être, parce que vous en pensez, Olivier, mais il a pu l'être, hein, inspirant. Il a pu à un moment donné dans sa carrière, au tout début avec le Porto, etc. Puis les débuts de Chelsea. Mais aujourd'hui, voilà, je trouve qu'il reste plus grand chose de tout ça. Ça devient presque une caricature, tout simplement.
Je partage tout à fait ce point de vue, et en revanche, je ne vois pas qui pourrait avoir à contredire quelque chose sur l'attitude de Diego Simeone. C'est un bonheur de voir cet entraîneur vivre ses matchs comme
c'est
incroyable. Il y a pas de problème avec lui. Je pense que personne ici autour de la table n'aurait quelque chose à redire
hormis,
à ce que vous venez de dire.
Hormis sa philosophie. Voilà.
On parle du personnage, là, on parle pas du personnage. Le personnage est carré dans son boulot. Voilà,
mais
Mourinho sort beaucoup
parce que Simeone vit pour son équipe, pour ses supporters, et pas par rapport à l'adversaire. Et Mourinho, c'est souvent par rapport à ses adversaires.
Il est dans le calcul, il
cherche la lumière. Mais oui, mais complètement.
Mais il y a une part du public qui peut s'identifier.
Et puis
une
manière de se venger, mais bassement, parce que on en est loin de l'histoire entre l'Inter et la Juve, franchement. Enfin, faut être honnête.
On a l'impression qu'il remue.
Ça fait 9 ans, je crois qu'il est parti.
Il remue les basses fausses.
Il vit dans le passé, quoi.
Oui, complètement.
Allez, on passe à autre chose.
De Magic, Karim Benzema. Pelota para Gareth Bale, el remate de Bale, Karim, gol.
Vamos.
Gol. Gavi, apúntale otro chicharro a Karim Benzema. Victoria Pilsen 0, Real Madrid 3.
Robert Lewandowski face à Barca, Silva s'est lancé, le Polonais, et c'est dedans. Avec Joshua Kimmich dans la surface de réparation, et ce ballon, oui, ça arrive dedans. Avec Monsieur Robert Lewandowski, qui est peut-être en train de tuer à lui tout seul, là, le Karaten.
Et oui, de gros scores sur certaines pelouses à retenir hier soir, comme eh bien ce carton de 5-0 infligé par le Real Madrid au Victoria Pilsen, avec ce doublé de Karim Benzema, le numéro 9 des Merengues, qui a inscrit hier ses 200e et 201e but sous le maillot de la Casablanca. Alors un cap symbolique, hein, bien entendu, mais il est quand même, du coup, Karim Benzema au 7e rang des meilleurs buteurs de l'histoire du Real. Alors avant lui, il y a des noms ronflants. Hein, alors évidemment, il y a Cristiano Ronaldo, mais il y a aussi Di Stefano, Puskas et autres joueurs passés par là. Est-ce que lui a 30 ans et 9 saisons, Nabil, est aux portes de la légende du Real Madrid, de cette Casablanca?
Pour moi, à l'échelle de son club, à l'échelle de la Ligue des Champions, c'est un très grand joueur. Alors après, le mot légende, je sais pas quelle est la définition du mot légende exactement.
Non, mais je pense à Di Stefano, par exemple, qui y est, Cristiano, qui lui fait ses adieux,
oui,
ou pas aussi.
Pour moi, bon, après, c'est ma sensibilité personnelle. 4 Ligues des Champions, le deuxième terrien pour l'instant, après les deux autres extraterrestres au niveau du classement des meilleurs marqueurs de la Ligue des Champions, puisqu'il est plus qu'à 11 buts ou 12 buts.
A marqué 59 buts en Ligue des Champions, et Raoul, pour monter sur le podium, est à
60.
Raoul qui ne joue plus, hein, qui risque plus d'en marquer, à 60 euros. Ouais. Il a 12 buts à marquer encore en quoi, 3 saisons, à peu près 3-4 pour rattraper Raoul et être sur le podium.
Je rappelle quand même, ça sera encore plus beau pour lui, parce que lui, les pénaltys, il les tire pas. Je demande le contingent de pénaltys qu'ont marqué les 3 devant lui, 25 passes décisives, j'ai regardé également, donc c'est un joueur altruiste, on retrouve aussi dans ses statistiques son profil de joueur. Maintenant, si vous me demandez mon opinion sur Karim Benzema, pour moi, il restera dans l'histoire pour une chose précise, c'est que dans 20, 30, 40, 50 ans,
on l'associera
à deux concepts qui ont existé dans le football, MSN, Messi, Suarez, Neymar, BBC, BBC, Bale,
le Benzema,
et Cristiano. Donc il est dans l'histoire pour moi du football.
Franck, vous pensez aussi, parce que il est amusant, Cristiano, Karim Benzema, il a déclaré à la fin du match, les gens ne comprennent pas ce que je fais sur le terrain.
Je trouve que c'est une déclaration intéressante. Non, mais oui, sincèrement. Ça change.
Parce qu'avant, on se disait il marque pas, maintenant il marque. Franck.
C'est pas une légende, on peut pas parler vraiment de légende, effectivement, surtout quand on compare avec ses illustres prédécesseurs.
Il reste 3 ans de carrière.
Ouais, y compris des contemporains qui sont plus forcément au club. Mais je veux dire, c'est un joueur qui compte aujourd'hui dans le football européen, le football de club. c'est un joueur important. Il y a pas un moment en fait que ça soit quand la Liga se joue ou la Ligue des Champions où on ne va pas parler de lui pour ce qu'il représente, puis aussi pour parce qu'il a été associé à un moment donné de sa vie
au meilleur.
Voilà, au meilleur mais aussi au pire. Et bah il fait partie en tout cas pour le football français. Je suis désolé, il est peut-être à l'extérieur de football français, mais je trouve qu'il y contribue beaucoup. Et grâce à ce qui fait que le Real, et il est partie prenante. C'est pas simplement un des,
oui, voilà, ouais.
Voilà, c'est pas un remplaçant sur le banc, acteurs. C'est un acteur important.
Mais Bruno, est-ce qu'il bénéficie d'une certaine manière du fait que Cristiano soit plus là aussi pour avoir un petit peu plus de lumière cette saison?
Oui, forcément, indirectement, mais ça l'a pas empêché de briller avant.
Oui.
C'est-à-dire qu'il est déjà à 50 passés, donc ça veut dire qu'il
mais
est
avant,
quand même prouvé.
Et puis il a aidé Cristiano. Ils sont bien contents de l'avoir eu.
Mais
Nabil l'expliquait avec les passes décisives, c'est quand même lui.
Au-delà de ces statistiques qui sont portées évidemment par le Real Madrid, mais ça veut dire aussi qu'il s'est ancré dans ce club, et le club le plus difficile pour un attaquant.
C'est
là où c'est extraordinaire. C'est quand même le meilleur buteur français en Ligue des Champions. Et moi, ce que j'aime en plus qu'il ajoute, c'est que c'est un joueur quand même très élégant.
Ouais.
Là, le but qu'il met, je crois que c'est le premier là où il enrhume défenseur. Bon, c'était pas la meilleure défense de l'Europe en face. C'était une des plus faibles équipes, la plus faible défense de Ligue des Champions. Mais en tout cas, il est là, il y a une régularité à ce niveau-là, et les matchs de Ligue des Champions, ça compte. Et lui, il est là dans ce genre de rendez-vous.
Alors, autre buteur de la soirée, c'est Robert Lewandowski. Hein. Il a inscrit les deux buts victorieux du Bayern Munich. Bon, alors, c'était face au modeste club de la EK d'Athènes, mais l'international polonais permet donc aux Bavarois d'en finir avec une série négative.
Oui, et puis lui aussi, il est quand même pas mal. 49 buts en Ligue des Champions.
Quand même.
C'est plutôt bien joué. Et je regarde le classement, le Bayern qui n'est pas encore qualifié, mais c'est une histoire de différence de buts. Ouais. Ils ont 6 points d'avance sur le 3e Benfica, 2 d'avance sur l'Ajax. L'Ajax hein, qui va peut-être être en 8e de finale.
Mais l'Ajax qui a été intéressante à l'intersaison, qui a des talents et qui a surtout conservé notamment le Marocain Ziyech, quoi, qui était très courtisé.
Manchester City, autre carton de la soirée avec son 6-0 obtenu contre le Shakhtar.
6-1, non
de,
il n'y a pas eu un petit but, non?
Non, 6-0.
6-0
Eh oui.
Non, là j'étais. Merci.
Pourtant, je suis bien ce club pour les raisons que vous connaissez.
Alors, un triplé du Brésilien Gabriel Jesus. Mais ce qui fait parler aujourd'hui autour de cette rencontre, c'est le penalty obtenu à la 24e minute. Alors, très drôle scène dans une compétition qui n'a toujours pas l'assistance vidéo et que Pep Guardiola réclame à corps et à cri parce que il a reconnu à la sortie du match dès le coup de sifflet final que non, il n'y avait pas penalty.
Non, il n'y avait pas penalty. Mais la VAR n'existe pas dans les compétitions de l'UEFA. C'est cela le problème. Sterling tente de frapper, mais se prend le pied dans la pelouse et tombe. L'arbitre ne le voit pas et fait une erreur. Mais il doit être aidé par la technologie. Alors je suis vraiment désolé pour le Shakhtar. Vous savez, ce n'est pas vraiment sympa de marquer un but de cette façon. Mais c'est comme ça. C'est arrivé contre nous face à Liverpool l'an passé, dans cette même compétition. Alors je me répète, mais l'arbitre central doit être aidé.
The referees must be helped. L'arbitre central devrait être aidé, alors, ne serait-ce que, on le répète, saison après saison, par ces deux gars à qui on paye un billet d'avion pour aller. On leur dit, tu te mets derrière le but, toi tu es censé superviser la surface de réparation. Ils ne servent à rien,
Olivier,
c'est incroyable.
Est-ce que vous avez vu la photo, j'ai cité le photographe, c'est Martin Riquet, un anglais, qui a pris cette photo derrière l'arbitre assistant, qui a une vue magnifique de l'action et qui voit clairement Sterling taper dans le.
Ils ne servent à rien, on leur paye.
Ils ne servent à rien.
Ils prennent des perdièmes.
Ils ne voient rien.
On dit, toi Jojo, t'as pas démérité pendant 5 ans, où est-ce que ça te ferait plaisir d'aller mardi? Ben tiens, on va t'y envoyer. Et on va te mettre dans un hôtel 5 étoiles. Je dis juste pour nos auditeurs, ils peuvent aller voir sur les réseaux sociaux l'image de la chute de Sterling. Ouais. Elle passe en boucle partout. Et surtout, l'image de Guardiola. Parce qu'il a pas attendu la fin, Guardiola. Tout de suite, il va voir l'écran. Il se prend la tête entre les mains, d'un air de dire, mais y a pas péno. Et il va voir le 5e arbitre. Et il fait même comme ça, quoi. Il fait le signe de la main, il va voir la vidéo, il le dit tout de suite.
C'est le geste fair play certainement de l'année ou de la saison, ça mérite
sans
ça.
Doute. Ouais, mais justement, la question, parce que Sterling, donc c'est une taupe hein, qu'il a fauché et non pas l'adversaire. aurait-il dû se dénoncer?
Un coup de vent, peut-être.
Bien sûr qu'il aurait dû se dénoncer.
Après, on était à 1-0 dans le match.
Lui explique après le match, qu'il a parlé après le match, il explique qu'il a pas trop compris ce qui s'était passé, il sait pas vraiment s'il est touché.
C'est vrai qu'il avait, il avait quelqu'un juste derrière
lui.
Quand tu joues au foot, t'as pas envie de te dénoncer, crois-moi.
Il se retrouve par terre, ça va très vite. Peut-être qu'il sent pas le coup, on sait, on en sait rien.
Non, mais
il doit aller.
Je comprends.
Moi, je pense qu'effectivement, il doit les dénoncer. On se souvient d'un match avec Arsène Wenger. Ils avaient profité d'une action, un but sur une touche, etc. Ils avaient profité de l'action d'un blessé, etc. Il avait demandé à annuler le match, annuler le but et donc le match. Ils avaient rejoué le match. Et effectivement, il y a eu plusieurs sites pénalty comme ça. Klose aussi qui l'avait fait.
Non, mais après.
Robbie Fowler l'avait fait. Robbie Fowler avait tiré à côté parce qu'il n'y avait
Klose,
pas pénalty.
Une fois qu'il s'était dénoncé.
Non, mais ça aurait été évidemment un geste.
Alors, Nabil, vous qui jouez, est-ce que vous vous dénoncez, vous?
Moi, très sincèrement, Annie, je repense au coup où il y a pénalty et on me siffle pas pénalty. Je me dis que ça
compense.
Ça compense. Je vois l'importance du match.
Vous savez, son surnom à Nabil, c'est swimming pool.
Oui,
dans les surfaces. Il plonge dans la piscine.
Ouais, il est comme Neymar.
Voilà. Donc, moi, je me dis, moi,
un
après,
peu d'honnêteté, Nabil.
Je dis que c'est pas bien, mais pour moi, ça fait partie un peu du football aussi. De,
et puis, quand il n'y a pas la vidéo,
vis,
finalement, on en profite, c'est ça?
Je sais, c'est pas bien, mais Sterling, je le dédouane à 50%.
Et alors, vous, Franck, qui êtes parfois dans les buts.
Non, mais je vous dis, s'il faut, je vais sortir les dossiers aujourd'hui. Hein. Parce que
alors
Nabil,
vous,
visiblement, est doublement frappé d'Alzheimer.
Ouais,
tu te souviens pas du match qu'on a joué contre les Anglais il y a quelques années de ça?
C'était pas les Italiens?
Non, c'était contre des Anglais.
Ah ouais, on avait fait un match.
Moi, je regarde simplement que cette émission soit filmée et diffusée telle quelle sur Facebook.
Ce qui m'a plaisé.
Et nos auditeurs verraient la tête de Nabil Djellit et comprendraient qu'il est d'une fourberie à niveau de fourberie.
Absolument. Alors, ce qui m'a plaisé, swimming pool, les Anglais.
Il avait quand même baptisé swimming pool, donc il est piscine en anglais, parce que si vous voulez, il était dans la surface, il était tombé, on ne sait trop comment, et il était comme ça. Et ça avait fait rire évidemment tout le monde, sauf les Anglais, parce que c'est pas vraiment dans leur tempérament de tomber
et
comme ça.
Il s'est pas dénoncé, c'est ça.
Bon, peut-être Sterling. Voilà.
Bon, en tout cas, voilà pour ce qui est de cette histoire. En tout cas, dans le groupe de Manchester City, qui est tranquillement devant avec son 6-0, derrière, ça peine un peu, c'est ce qu'on peut dire, hein, Olivier?
Bah, derrière, ça n'aurait pas dû peiner, parce que si le score en était resté là, si Lyon avait quelque chose dans la caboche et était capable de tenir un score pendant 90 minutes, aujourd'hui, dans ce groupe, on aurait Manchester City avec 9 points, Lyon avec 8, et Hoffenheim et le Shakhtar Donetsk avec 2 points. Ça veut dire que City et Lyon seraient pratiquement qualifiés. Il y aurait 6 points d'écart. C'était dans la poche à 4 minutes de la fin.
Mais malheureusement, revenons sur le déroulé du match.
Ça va revenir dans les pieds de Ferland Mendy. La fin, pourquoi pas frapper Pierre.
Oui,
oh, derrière, ça a été repris. Ferland Mendy, deuxième chance. Et voilà qui va flotter. Finalement dedans. C'est le capitaine, c'est Nabil Fekir. En retrait vers un Ndombele.
C'était parfait, l'engagement contre cette excellente équipe de Hoffenheim était bon.
À la mi-temps, voilà, on se voit peut-être un peu trop beau et on pense que le match est fini à 2-0.
Le jeu se poursuit en faveur des Allemands. Attention derrière, oh, c'est terrible.
Kramaric, au coup franc, Jolinton, second poteau.
Les semaines se suivent et se ressemblent, les matchs se suivent et se ressemblent, c'est toujours la même histoire. Lyon finit toujours par craquer.
C'est tellement décevant parce qu'on avait la capacité ce soir de pratiquement se qualifier et c'est pas le cas. Donc voilà, après il reste encore 2 matchs et à nous de faire le maximum pour aller chercher cette qualification.
C'est toujours la même histoire. Scénario catastrophe pour cette équipe lyonnaise qui menait et qui jouait à 11 contre 10. L'entraîneur Bruno Genesio a tenté d'expliquer pourquoi son équipe craque ainsi.
Je pense qu'on n'a pas su. On a eu beaucoup d'opportunités pour mettre le troisième but. Ensuite, on a encaissé ce but qui nous a fait reculer, qui nous a, je pense, mentalement touchés. Et on n'a pas su encore une fois faire preuve de suffisamment de justesse et d'efficacité, mais aussi je pense d'intelligence pour garder ce résultat. Et on fait une erreur de marquage sur le coup de pied arrêté qui nous coûte très très cher.
Franck, manque de justesse et manque d'intelligence. Est-ce que ce sont les mots dont souffre Lyon, selon vous?
Bah oui, on peut y coller aussi la jeunesse, parce que c'est quand même un effectif avec pas mal de joueurs relativement jeunes. Donc, ça se ressent par moments dans la gestion des temps faibles. Ces moments où il faut justement bien resserrer au niveau du marquage. Après, faut pas oublier aussi qu'au coup d'envoi, Lyon avait opté pour un autre système sur le plan tactique. Mm-hmm. Ah, ils étaient partis dans un système
3-5-2.
Voilà, ce 3-5-2 qui est pas forcément celui qu'ils pratiquaient il y a encore quelques semaines.
C'est vrai.
Ça a pu.
Qui en début de match était plutôt séduisant.
Voilà, séduisant et puis
ouais, ça crée du déséquilibre.
Forcément.
Et pas, et moins de maîtrise, notamment, parce qu'en fait, quand t'as un match comme ça et que tu mènes 2-0, c'est incroyable de faire de l'attaque-défense, des deux côtés alors que vous êtes à 10.
C'était peut-être pas le, peut-être pas le match pour
mais
le.
Non, mais en même temps, non, mais on a l'impression que les mots de Lyon sont uniquement liés à ce match-là. Mais
non,
Lyon, ça a
non,
toujours
non,
été
non.
comme
ils
ça. Tout le temps.
À Lyon, en fait.
Peu importe le système de jeu, ça a toujours été un déséquilibre permanent. Ils sont incapables de gérer de, et ça, ça vient
mais
sans doute de la jeunesse.
Mais vous dites tout le temps, c'est cette saison, mais
cette saison, oui. Ils sont incapables de gérer un résultat. Capable de conserver, ça manque de vie, ça manque d'expérience. À 2-0 et à 11 contre 10 ou pas d'ailleurs, peu importe. À 2-0 on doit gérer.
Dans
on
les
doit
deux
ralentir
sens,
le rythme.
Dans les deux sens, quand tu mènes ou quand tu es mené.
C'est bizarre. C'est bizarre. Et là où c'est inquiétant, parce que moi je m'étais renseigné, j'avais pris un peu la température dans les entourages de joueurs à Lyon, parce que je me suis légitimement posé la question. Je veux dire,
pourquoi c'est,
oui, pourquoi il y a un moment
pourquoi
où
on
tu
craque
as,
comme
voilà.
ça, alors qu'on a le match en main et,
bon, alors,
et le résultat.
Évidemment, on m'a parlé de questions de concentration, de choix de match et, également. Et là où ça m'inquiète, c'est que hier c'est un match de Ligue des Champions. Normalement, tu à ce moment-là, tu
qu'un match pour se qualifier.
Moi, je choisis pas.
C'est pas un match qu'on doit galvauder. Alors, moi, j'ai pas envie de tirer sur l'ambulance, mais il y a quelques joueurs quand même. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Lucas Touzard au milieu qui apporte pas forcément de sérénité. Il manque peut-être un Taulier, il manque peut-être un Luis Gustavo, un Strootman au milieu de terrain du côté de Lyon.
Peut-être pas en ce moment.
Oui, mais ce profil de joueur, c'est-à-dire expérimenté, aboyeur, etc. Mais par exemple, hier, et ça fait plusieurs reprises que je le remarque, pourtant j'adore ce joueur. Et je dis pas que c'est que lui, hein. C'est pas lui qui va expliquer toute la séquence lyonnaise. Mais Bertrand Traoré, les replis défensifs, ça fait plusieurs matchs que ça ne l'intéresse pas. Et là, hier, manque de peau, c'est lui qui est concerné par la situation de l'égalisation, puisqu'il est absent du marquage. Je dis pas que c'est Bertrand Traoré qui explique
non,
tout ce qui se passe à Lyon.
Non, mais ça explique des choix précédents. Ouais. En Ligue des Champions et aussi en championnat, où Cornet était titularisé dans ce fameux couloir.
Plus un joueur d'effort et contre effort.
Exactement. Effort contre effort, bloqué, son oui, latéral.
Son physique quand même.
L'autre, il joue avec le ballon. Il y a avec le ballon qui l'intéresse.
Et voilà. Donc,
non, mais bon, c'est réducteur.
Il y a eu des choix. Non, mais c'est aussi un élément à prendre, un élément important à prendre en considération. Ça l'était en début d'exercice de Ligue des Champions.
Je vous propose maintenant d'écouter aussi l'analyse de Jean-Michel Aulas, le président. Elle vaut son pesant à ce président du club, évidemment. Venu défendre ses hommes, très critique envers la presse qui dit c'est toujours la même chose, ça se finit toujours de la même manière. Malheureusement, c'est dans les fêtes. Et quand on lui pose la question, avez-vous peur de tout perdre? Voici sa réponse.
On a toujours peur de tout perdre, mais ceci étant, on n'imagine pas que parce que ça s'est pas bien passé sur le plan de la forme et que, avec beaucoup de chance, parce que je sais pas si vous avez regardé le deuxième but quand Tanguy se blesse, le ballon il est sorti. Donc c'est aussi un concours de circonstances qui fait que, alors je ne veux pas faire comme le Paris Saint-Germain de pleurer sur toutes les antennes, moi vous ne me reprendrez pas de toute façon si je pleure contre l'arbitre, voilà, donc et puis c'est vrai que le mental a été défaillant, et là je suis complètement d'accord avec vous, bon, déjà chose de bien, il n'y a pas à travailler le mental du président, donc il va faire face et puis il va trouver les solutions avec le coach pour que nos joueurs soient très bons jusqu'à la fin.
Les petits messages distillés par Jean-Michel Aulas.
Ah, il distribue.
Non, mais c'est
un président
ce qu'il dit,
qui parle de lui à la troisième personne.
C'est intéressant parce qu'on parle de mental. Peut-être que dans le staff technique aujourd'hui de l'OL, je dis pas que le discours de Genesio il passe pas, mais il a dû leur rabâcher 40 fois les gars. On va se concentrer jusqu'au bout, on fait pas les cons les gars, etc., etc., etc. Peut-être que. Il faut quelqu'un de supplémentaire, peut-être davantage axé sur le psychologique, le mental. Il existe peut-être.
Le taulier, c'est toi qui le disais il y a quelques minutes.
Le taulier,
il le faut sur le terrain.
Mais c'est qui le taulier?
Non, mais il le faudrait. Non,
mais on pose la question.
Ça devrait être Fekir.
Fekir, j'ai l'impression que c'est un taulier qui c'est déjà un leader technique.
Oui.
Bon, déjà ça
c'est pas ça le taulier.
Oui, il a été formé à Lyon, ça fait quelques années qu'il y est.
On l'a responsabilisé, mais
c'est un aboyeur qu'il faut là. Taulier aboyeur.
Voilà, c'est peut-être pas suffisant.
Moi, je vous écoute, mais en même temps, ce que je comprends pas, c'est que à City, ils font exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ouvrent le score, ils conservent le résultat et ils défendent hyper bien.
Mais pourquoi c'est City qui a peut-être pas été
Je suis d'accord. Mais City avait Lyon avait hyper bien défendu. Pourquoi ils sont pas capables de répéter ce même genre de performance?
Mais t'avais pas forcément les mêmes joueurs ce soir-là.
C'est ça aussi.
T'avais des joueurs différents. Il manquait Diop, mais à part ça,
après, bon,
Cornet.
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 Mais Cornet avait fait pour le coup un. Il avait été très très important dans ce match.
Une question, quand on demande à Jean-Michel Aulas, ça vous peur de tout perdre, est-ce que vous pensez que cette équipe qui va recevoir City le 27 prochain, le 27 novembre, et puis ira à Donetsk, est-ce qu'elle peut renverser la tendance et se qualifier?
Mais attendez, elle n'est pas éliminée, là. Enfin,
mais je suis surpris. Les commentaires après le match, ils sont encore en vie.
Mais
il y a l'impression que Lyon avait tout perdu.
Il faudra sans doute aller chercher les qualifs à Donetsk et ça ne va pas être ça. City vient à Lyon avec un énorme esprit de revanche, il nous semble.
Ils ont 3 points d'avance. Offenheim, ils vont aussi à Manchester City.
Oui.
Ah oui.
Ouais, mais le dernier match, c'est City, on est d'accord.
C'est plus compliqué d'aller à City que de recevoir City.
Je pense que City va arriver
déjà qualifié, certes, mais même s'ils mettent l'équipe B, ils peuvent remettre 4. Ouais. Tout va se jouer sur le match au Shakhtar.
Ouais.
Bon, mais ils sont pas éliminés.
Ils peuvent faire 0, hein, Bruno.
Donc ils peuvent se qualifier.
Bien sûr, ils peuvent faire 0.
Ils peuvent se qualifier.
Allez, on verra ça.
En Europa League aussi.
À la fin du match. On part en Afrique.
Ah, enfin.
Le spectacle promet d'être très animé demain soir dans le stade, à l'ambiance déjà très chaude de Rhades dans les faubourgs de Tunis, avec ses 60 000 personnes dans l'enceinte et la plupart, eh bien, acquises à la cause évidemment de l'espérance Tunis, parce que demain soir c'est la finale retour de la Ligue des Champions africaine avec l'espérance de Tunis donc qui reçoit Al Ahly qui l'avait emporté sur le score de 3-1 au match aller. Est-ce que revenons sur les polémiques parce que c'est évidemment ça qui a provoqué tout cela. Des polémiques autour de l'arbitrage alors que la vidéo réclamée par Guardiola en Ligue des Champions, eh bien là on a une vidéo qui s'est retournée pratiquement contre l'arbitre ou contre les joueurs.
On va dire que le VAR et l'Afrique pour l'instant c'est pas une réussite. Déjà à la Coupe du Monde ça a été plutôt.
Il y a eu 3 pénaltys sifflés dans le match, Nabil.
Tout à fait. Déjà à la Coupe du Monde on peut pas dire que les décisions qui ont été profitables aux sélections africaines avec le VAR. Et effectivement, ce match, c'est gênant, Annie, parce que c'est comme une finale continentale.
Vous nous aviez vendu un Juve Real.
Oui, mais alors peut-être des années 80 avec un arbitrage un peu. Alors la qualité du match, l'intensité, tout ça, il y a pas de souci. Franchement, il y a deux bonnes équipes, mais ça a été complètement occulté par ces histoires d'arbitrage et notamment ces deux pénaltys accordés
en faveur du
Ali Duclerc. Le premier, c'est évidemment une simulation de l'attaquant marocain Walid Azro. C'est moins scandaleux des deux parce que on peut toujours dire ah il a à peine touché, mais le deuxième c'est un summum de médiocrité absolue. Et là où c'est inquiétant, c'est que l'arbitre peut se faire abuser, mais comme vous et nous, on a quand même vu les images
et il les avait, il allait les consulter en plus.
Et nier l'évidence à ce point-là. J'ai pas d'explication rationnelle. Peut-être que ici, Franck ou Bruno ont des explications.
Ça tient de la malhonnêteté là. C'est pas possible.
Ou un niveau d'arbitrage.
Rappelez qu'est-ce qu'elles montrent ces images.
On va raconter. Moi, ce qui me choque le plus, c'est le deuxième. Il y a un duel à l'entrée de la surface de réparation entre Walid Azro et Shamseddine Daoudi.
Walid Azro, le buteur de Al Ahly, est un des hommes les plus importants de l'équipe.
Les images que l'arbitre a dû voir, je vois d'abord Azro mettre un coup de poing ou un raffut clair sur Shamseddine Daoudi. Donc, c'est lui qui provoque déjà la première situation en faisant faute. Ensuite, l'action continue. Il y a un duel a priori normal dans la surface. Daoudi le repousse légèrement après avoir pris une moitié de pain dans la figure. L'autre, comme disait Franck à juste titre tout à l'heure, fait swimming pool et se laisse tomber d'une manière absolument scandaleuse. L'arbitre est appelé par le VAR parce qu'il est dos à la situation et tout de suite il siffle, il se retourne et il monte le point de pénalty. Il va vers le VAR, donc l'arbitre monsieur Habit qui était à la Coupe du Monde mais qui n'a arbitré aucun match, heureusement j'ai envie de dire, se retrouve à regarder le VAR, prend un temps incroyable.
La vidéo.
Ouais, prend un temps incroyable pour expliquer que il y a évidemment
penalty.
Et ensuite Annie, et ce qui est important à raconter et je terminerai là-dessus, c'est que Walid Azro
pour convaincre
l'arbitre, c'est rappeler que l'Égypte était un grand pays de cinéma qui a dominé le monde arabe à une époque, a pris son maillot
et l'a déchiré lui-même pour démontrer qu'il y avait eu un accrochage. Et donc voilà, c'était une c'était de la fiction. Enfin non, la réalité pardon.
Depuis ça a été évidemment les images ont été vues et la CAF a pris la décision de suspendre ce joueur pour les deux prochains matchs pour anti-jeu.
Normal, deux matchs c'est même un minimum.
C'est gentil de match. Ah ouais, c'est vraiment gentil. Je suis désolé, c'est de la tricherie
pure. Ce type devrait être exclu 6 mois.
On voit qu'il y a beaucoup de complicité sur le terrain qui le laisse faire de la part de son équipe.
Il dégire, c'est de la tricherie.
Est-ce que quelqu'un avait déjà vu un truc à ce niveau-là? Moi non, très sincèrement.
Jamais.
Si.
Franck.
Si, en finale de Ligue des Champions, il y a une vingtaine d'années. Du côté de l'Espérance de Tunis d'ailleurs, le gardien de but Chokri El Ouaher.
Ah oui, grand gardien.
Qui avait simulé une blessure au sang. Il avait visiblement une petite fiole dans son but. Et il avait fait comme s'il avait été coupé par.
Il y avait eu ça en Amérique du Sud aussi.
Je crois que c'était contre les Arsofok.
Sans VAR pour le coup.
Non.
Là où les circonstances sont encore plus aggravantes, c'est que t'as le truc pour t'aider.
Non, mais ce qui est énorme, c'est la défense du National du Caire, enfin de Al Ahly, qui dit oui, mais le caméraman qui filme, il est tunisien, donc il nous aime pas, il est proche des Marocains. Mais c'est pas lui. C'est pas lui qui dit au gars, déchire ton maillot. Il le filme.
L'arbitre est algérien,
bien sûr.
C'est hallucinant.
L'arbitre est algérien, je pense qu'il a plus de proximité avec les Tunisiens.
Qu'on aime bien, qui a des résultats exceptionnels en Afrique et notamment avec Al Ahly après le TP Mazembe. Il est pas net sur cette affaire. Je pense que je sais pas s'il se rase le matin dans la glace, mais il doit pas être super fier en ce moment de croiser son regard.
Alors vous imaginez que dans ce contexte extrêmement chaud et disputé, eh bien les autorités tunisiennes sont sur le qui-vive, et notamment aussi le président de ce club, Riyad Benour, que l'on va entendre et qui tente de rassurer. Il est au micro du correspondant de RFI, Farouk Katou.
Après les événements qui se sont déroulés et surtout les erreurs d'arbitrage du match aller, il y a eu, c'est vrai, au niveau des supporters, une tension pour ce match-là, mais on essaie de vraiment bien remettre les choses en place pour que la finale retour se déroule dans les meilleures conditions. Toutes les préparatifs au niveau du club et au niveau des services sécuritaires du pays sont en train de travailler pour que ça soit vraiment une fête et la fête du football africain.
Une fête, mais déjà les autorités ont prévu de déployer autour de stades de 60 000, d'une capacité de 60 000 personnes, 4 500 militaires et 12 000 policiers. Franck, ça peut gâcher la fête.
Ça sera surtout pour contrôler les supporters de Taraji et de l'Espérance, parce que c'est pas les Égyptiens, c'est pas les Kérotes qui seront les plus nombreux, et on connaît la versatilité des supporters de Taraji, de l'Espérance. Ils sont capables de retourner un stade, ils l'ont fait par le passé lors d'une finale retour de Ligue des Champions contre Mazembe. Voilà, fin de l'histoire.
Maintenant, on a vu aussi cette ambiance très particulière quand il y a eu le match en demi-finale contre Primeiro de Agosto.
Eux pour le coup avaient profité des largesses de l'arbitre. Il me semble que c'était le Zambien Gianni Sikazoué, très très connu aussi du grand public international. Mais pour
il a été désigné l'arbitre, là, vous avez vu,
ouais,
Franck.
C'est un Éthiopien.
Éthiopien, Bamlak Tessema.
Mais pourquoi ne pas faire comme ça a été le cas par le passé dans l'histoire du football africain? Pourquoi ne pas aller chercher un arbitre d'une autre confédération? Pourquoi on continue de jouer des finales aller-retour? Pourquoi pas revenir à une finale unique
sur
un terrain neutre pour faire une belle affiche? Bon, c'est peut-être des pistes à creuser pour les autorités du football africain. On en est loin aujourd'hui. On en est loin parce que vous savez,
c'est déplorable. C'est déplorable parce que cette histoire-là, elle a fait le tour du monde avec les réseaux sociaux, parce qu'il y a 20 ans, c'était peut-être à huis clos, comme monsieur Chokri El Ouaher.
Non, c'était pas à huis clos, c'était à Accra. Non, mais je veux dire, ça a été vu par beaucoup de monde.
À huis clos, dans le sens que c'est pas Vision, aujourd'hui, c'est diffusé sur des chaînes.
Ça avait été vu par une cinquantaine de pays africains, et on l'avait écrit, on l'avait dénoncé, on avait dit que c'était scandaleux. Avait fait quand même le tour du continent et de l'Europe.
Plus fort aujourd'hui, qu'on le veuille ou non.
Juste sur le plan sportif, alors, il nous reste quelques minutes.
Je pense qu'ils vont renverser la situation.
Ils ont deux buts d'avance pour l'instant, Al Ahly.
Oui.
Vous pensez que l'Espérance, en tout cas,
ils sont amoindris, Nabil, n'oubliez pas.
Ils sont amoindris,
mais il y a eu des cartons jaunes.
J'ai vu le match retour entre le Ahly du Caire et l'Entente de Sétif en demi-finale. Une grosse gestion des Égyptiens qui avaient fini par perdre 2-1. Je crois qu'ils ont quand même un point faible, c'est leur gardien, que je trouve pas.
Quel gardien de l'équipe nationale, qui a fait quand même. Qui a pas été le pire de la Coupe du Monde, Nabil.
Que je trouve pas exceptionnel. Mais après, avec le contexte particulier, ça va être chauffé à bon. Ils vont être galvanisés par l'injustice. Vous avez quand même des joueurs de talent. Youssef Belaïli, l'Algérien, qui a marqué le pénalty à l'aller. Alors d'accord, Nkom n'est pas là, Dawadi n'est pas là, mais moi je suis persuadé que l'Espérance peut le faire.
Pas sûr.
Et vous, Franck?
Non, je pense que ça peut se terminer sur un match nul. Les Égyptiens, les Kérotes n'ont besoin que d'un match nul pour l'emporter. Mais bon, peut-être qu'effectivement on assistera à une remontada. Ça serait intéressant pour l'histoire.
Il y a un parfum d'irrationnel, et il n'y aura pas de parfum d'Azaro ce coup-ci, puisqu'il est suspendu deux matchs.
Oh bravo.
Merci.
Ça vient de loin, là. Ça vient de là.
comment ça se passe dans ces cas-là? Il touche moitié,
c'est
la moitié,
c'est
du, la moitié du cachet.
De shampoing, de parfum, de pour, parfum ouais, ouais. pour Nabil.
Ça sent bon tout ça.
C'est la fin de ce Radio Foot. Merci beaucoup, messieurs. Merci aussi à David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission. Laurent Salerno qui était à la réalisation. Et on vous dit à demain pour le Café des Sports. RFI Challenge.